Ça vient d'Éphésiens chapitre 1. Hein, Paul qui priait pour les Éphésiens, il était content d'entendre qu'elle est bien, mais il ne s'est pas assis en disant « Ah oui, j'ai entendu parler de votre amour au Seigneur de Jésus, de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints. » Il n'a pas dit « Ok, je vais passer un autre appel, je vais prier pour les Corinthiens qui ont donné de la misère aux autres comme personne. » Non, il a prié que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils voient l'héritage qui est attaché à leur si grand salut. Et c'est ce qu'on considère par la grâce de Dieu ensemble depuis le début du mois d'octobre avec le thème de l'année qui est Dieu, le Dieu qui révèle. Et aujourd'hui, on va considérer ensemble « Dieu nous révèle l'héritage des nations ». On a déjà lu le psaume, on l'a même eu récité par cœur. Je vais juste lire le verset 8. Je vais prier, puis ensuite on va considérer ensemble l'ensemble du psaume pour ce message. Écoutez bien ce que ça dit au verset 8. L'Éternel ici qui parle, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Seigneur, on te remercie de ce que l'héritage que nous avons en Jésus-Christ est tellement grand, tellement merveilleux qu'on doit prier pour se rendre compte à quel point c'est grand. Quelle est l'infinie grandeur de la richesse, de la puissance qui s'y rattache par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Seigneur, c'est un héritage impérissable, un héritage glorieux, immense. Et Seigneur, on veut s'en réjouir ce matin et on désire que tu nous ouvres les yeux sur les richesses merveilleuses et même incompréhensibles de Christ. C'est en lui, Seigneur, qu'on se confie. C'est lui qu'on désire voir dans toute sa splendeur. Seigneur, ouvre les yeux de notre intelligence. Merci pour ce psaume majestueux, actuel, merveilleux. Seigneur, on s'en remet à toi, enseigne-nous. Et Seigneur, dirige, convainc, fais ton œuvre comme juste toi peux le faire. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, ce verset, ce psaume enseigne quelque chose par rapport à notre héritage en Jésus-Christ. Et un domaine qui, je dirais des fois, ignoré peut-être méconnu, c'est-à-dire que son œuvre rédemptrice, puis l'héritage qu'on a en lui, étant racheté par lui, ça va jusqu'aux extrémités de la terre. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Je vous rappelle que ce qu'on voit, c'est ce que le Père donne au Fils, et que nous, étant en Jésus-Christ, on est héritier de ça, hein, co-héritier de Christ. Et on a commencé à voir à travers les premiers messages comment tout ça commence avec l'héritage de la vie. Vous savez, lorsque on est sauvé, on passe de la mort à la vie. C'est le premier héritage. C'est Dieu qui restaure notre adoration intérieure. Nous étions morts dans nos offenses et nos péchés, mais il nous a rendus à la vie. Et maintenant, on peut l'adorer en esprit et en vérité. On a vu ensuite comment il y a aussi tout l'héritage, la famille. Vous rappelez-vous, on a vu comment l'histoire rédemptrice, c'est une histoire familiale qui a commencé de la toute première famille, celle d'Abraham, puis on continue jusqu'à la famille de Jésus et tout ça. Puis c'est la restauration de l'adoration relationnelle. Dieu qui restaure les relations en lui dans le contexte de la famille. On a vu la semaine dernière l'héritage de l'Église. Comment Dieu restaure l'adoration collective. Et on en parle ici. On n'est pas juste un plus un, puis chacun de notre bord. Non, on forme un. Et la Bible nous parle de l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est Dieu qui unit. On n'est pas dans l'écuménisme, on n'est pas dans une espèce d'union artificielle, mais c'est Dieu qui lui-même crée cette unité spirituelle dans l'Église. Et on a vu Jean 17, comment c'est donc majestueux. Ce passage, notre grand souverain sacrificateur qui prie pour que nous soyons un comme il est un. Et donc, quel héritage vaste. Tellement vaste qu'il faut prier. Il faut que ça soit une réponse aux prières pour qu'on se rende compte de tout ce qu'on a. Ça, mes amis, ce n'est pas un Dieu qu'on peut mettre en boîte. Ce n'est pas une religion d'homme. C'est le Dieu vivant. C'est tellement grand que ça dépasse la compréhension humaine. Moi, ça me réconforte ça. Ça me dit, waouh, quel Dieu! Oh, quel grand Dieu! Qu'est-ce qu'on a chanté en première partie ce matin? Dieu Tout-Puissant, quand je considère, waouh, c'est merveilleux, c'est grand. Et là-dessus, j'aimerais juste, je vais vous amener quelques versets en introduction, mais dans 2 Corinthiens chapitre 8, j'aime bien le verset où est-ce que ça dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Pourquoi on a toute cette richesse de cet héritage infini et glorieux? C'est parce que Christ a accepté de se dépouiller. Quand on voit dans Philippiens, ce passage tellement merveilleux de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, on voit ce que dans la langue originale on appelle kénosis, Christ qui s'est dépouillé. C'est pas qu'il a arrêté d'être Dieu, c'est pas qu'il a mis de côté sa divinité, mais il a mis volontairement de côté certains attributs divins pour s'en dépouiller puis venir ici sur terre dans une humilité complète, lui qui s'est abaissé au plus bas, devenant serviteur et mourant de pas de n'importe quelle mort, mais de la mort la plus honteuse, la plus horrible, celle de la croix. Et que ensuite Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, et il y a un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Et au nom de Jésus, tout genou va fléchir. Amen. C'est l'héritage que nous avons en lui. Lui qui a accepté d'être pauvre afin que nous soyons enrichis. Et il y a quelque chose qui me dit que les Macédoniens, dans 2 Corinthiens 8, avaient compris ça. Vous connaissez l'exemple des Macédoniens? Je voulais juste ce que ça dit sur eux autres. Je pense qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient compris sur l'héritage qu'ils avaient. Et d'ailleurs, c'était, ce que je vais vous lire là, c'est l'accomplissement du verset 8, l'héritage des nations. OK, ici, les Macédoniens, déjà, qui étaient, l'Évangile se répandait. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde a produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Il avait compris quelque chose ici, je pense qu'il répondait à cette grâce, à l'œuvre de Christ et à l'héritage merveilleux qu'ils avaient, puis ils suppliaient de pouvoir y avoir part. Ils trouvaient ça tellement précieux, c'était leur trésor. On veut avoir part à ce trésor merveilleux de notre héritage en Jésus-Christ. Et on voit en eux un merveilleux exemple de cette restauration à tous les niveaux. Ils avaient reçu la vie. Les familles avaient été touchées, transformées, l'Église l'était, puis là maintenant, eux qui étaient d'une de ces nations, de ces langues, de ces tribus, de ces peuples qui maintenant glorifiaient le nom du Seigneur, eux qui avant étaient étrangers à Dieu complètement. Et maintenant, il y avait un vif désir, comme Paul l'exprime dans Romains 1,15, de propager cet évangile, de propager cette bonne nouvelle qu'eux autres avaient reçue. Et c'est ça l'œuvre missionnaire. Et c'est ça qu'on va considérer ensemble. L'œuvre missionnaire, c'est un désir de partager le trésor de Christ que nous avons reçu puis qu'on ne peut pas garder pour nous-mêmes. Trois étapes de la restauration, de l'adoration. Vous savez, on a vu l'adoration intérieure, on a vu l'adoration relationnelle, l'adoration collective la semaine passée. Cette semaine, l'adoration universelle. Ça va jusqu'aux extrémités de la terre. Que tout ce qui vit, tout ce qui loue l'Éternel et l'adore. Et donc, trois étapes. D'abord, on est dans le psaume. On va lire les trois premiers versets. D'abord, la première étape, ça prend la révélation du problème. Pour quelle adoration faut voir le problème? Heureux. J'étais pas dans le bon psaume. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Le Dieu qui révèle l'héritage des nations doit commencer par révéler l'état lamentable de ces nations, de cette humanité rebelle. On dit dans Romains, hein, qu'ayant connu Dieu, ils n'ont pas donné gloire comme étant Dieu, ils ont retenu la vérité captive, puis se sont tournés vers tout ça, se vantant d'être sages, sont devenus fous. On apprend aussi dans Éphésiens comment l'homme non régénéré, il n'a pas la connaissance de Dieu, puis il est étranger à la vie de Dieu. C'est l'état de l'humanité qui dit, Dieu, on ne veut rien savoir de toi. Vous savez que c'est ça le problème en ce moment. Ce n'est pas les politiciens. Ben, les politiciens sont dans ce problème-là. Mais c'est un problème spirituel de rébellion envers leur Créateur, le Dieu qui leur a donné le souffle de vie. Et la conviction du Saint-Esprit, vous savez que le Saint-Esprit, Jésus a dit qu'il va venir et qu'il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. S'il n'y a pas cette conviction-là, il n'y a pas de salut. Parce que Le salut commence par la révélation du problème. On n'est pas sauvé automatiquement. On ne peut pas sauver nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous convainc de notre péché, de la justice de Christ, et qu'un jour, on va faire face à un Dieu trois fois saint pour rendre compte. Et c'est ça, la révélation du problème, l'état réel des choses. Ici, c'est une proclamation de ces nations en tumulte, leurs pensées qui sont vaines et les princes qui se liguent. C'est une opposition, une rébellion à Dieu, l'Éternel, qui a envoyé son oint pour la délivrance, mais c'est une rébellion. Et cette première étape, je dirais, elle est indispensable. Et c'est pour ça que la motivation missionnaire, elle est à la lumière de tout. On s'en va dans un terrain hostile, dans des gens qui ne vont pas nous accueillir avec un tapis rouge. Au travers, est-ce que quand vous dites que vous êtes chrétien, les gens se mettent à chanter les louanges de Dieu et dire « Gloire à Dieu, on a un serviteur de l'Éternel parmi nous! » Pas vraiment, hein? Pourquoi vous riez? Ouais, ce serait le fun, hein? Mais, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là? On a un ministère auprès de ces gens-là. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Il y a un problème, il y a une séparation. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le Père révèle l'héritage qui est en son Fils afin de montrer le besoin. Le besoin absolu de délivrance. Vous savez, la mission du Messie est révélée dans Ésaïe 61. L'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Quand je lis ça, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas à quelque part, n'est-ce pas? C'est ça la mission du Messie, c'est amener la délivrance là où il y a de l'esclavage, amener la liberté là où les gens sont captifs. Il faut qu'on comprenne le problème si on veut être motivé pour amener la délivrance. Il faut voir la situation misérable dans laquelle l'humanité elle est pour voir à quel point on a besoin d'un sauveur. Et l'intervention divine de la grâce de Dieu, pourquoi on en a besoin? Ce n'est pas parce que les hommes n'essayent pas de régler leurs problèmes. Vous savez que les hommes sont très religieux et essayent depuis la chute de se sauver désespérément. Mais c'est comme quelqu'un qui est dans le sable mouvant ou qui est sur le bord de se noyer, puis qui se débat. Qu'est-ce que ça fait? Il fait juste s'enfoncer plus, il fait juste perdre son énergie. Puis au lieu de s'aider avec tous ces efforts de la religion humaine, ne fait que rempirer sa situation. Ils ont besoin de l'aide extérieure. Il faut que l'aide vienne de Dieu. Il faut que la bouée du salut soit envoyée. Parce que les hommes sont incapables de se sauver par eux-mêmes. Et lorsqu'on comprend ça, on comprend mieux pourquoi le fondement des missions, c'est la propagation de la vérité qui est en Jésus-Christ. Et je veux prendre le temps de développer ça. Quand ça dit dans Acte 1, Jésus envoie les disciples, il dit, allez, puis vous allez être mes témoins. Le mot littéralement, c'est martyr, vous allez être mes témoins. Puis d'ailleurs, en roumain, le mot pour témoin, c'est martyr. Ils ont gardé, l'original. Et donc, vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce qu'on est témoin de celui qui libère. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, puis Christ est la vérité, il est le chemin, la vérité, la vie, puis Christ qui est la vérité, c'est lui qui a franchi. Donc nous, on propage cette vérité qui libère. Et c'est pour nous qui connaissons Christ, on le fait connaître. Et c'est tellement plus que juste faire un petit plan de salut, essayer d'avoir une réponse, une petite formule qu'on amène. Non, on présente celui qui libère de la condition misérable dans laquelle l'humanité se trouve. Est-ce qu'on comprend le problème ici? Un tumulte, des vaines pensées, un soulèvement. Les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. C'est une rébellion contre celui, puis ça continue. Brisons les liens, délivrons-nous de leur chaîne. Ils ont besoin de voir que c'est eux les pires esclaves dans la pire situation dans laquelle ils sont. Donc, c'est plus que juste dire, je vais faire répéter quelque chose. Non, c'est voir qu'ils sont face à un Dieu trois fois saint devant lequel ils vont rendre compte. Je vous lis à ce sujet-là, Colossiens 2:3. Ça dit que en Christ, c'est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. On fait connaître à des gens qui sont rebelles, qui sont perdus, le trésor qui est en Jésus-Christ de la délivrance de cet héritage-là qu'on connaît. Puis là, je veux juste amener une application ici. Je dis que l'évangile s'est propagé, les missions s'est propagé la vérité. La vérité qui est en Jésus-Christ. Versus les erreurs que l'œuvre missionnaire peut propager. Il y en a qui sont flagrantes. Vous savez que l'évangile de la prospérité, ça fait plus de mal que de bien à travers le monde. C'est un faux évangile qui égare le monde. Ça, c'est assez flagrant. Puis il y en a d'autres, il y en a des plus subtils aussi. La sanctification par les œuvres avec ses mille et une formes, la justice propre. Prêcher juste la moitié de l'évangile, Jésus sauve pour le salut puis tout ça. Mais l'évangile, c'est aussi pour les saints. Christ est notre liberté, il est notre vie. Puis... c'est, on n'a pas juste un ticket pour le ciel. Christ est celui qui change les vies puis qui conquiert toutes les ténèbres de ce monde actuellement. Maintenant, ces dérives sont causées par l'orgueil et l'incrédulité, malheureusement, des leaders spirituels. C'est pas nouveau, c'était comme ça du temps de reste. C'est ce que les prophètes dénonçaient. Ils s'en prenaient aux leaders qui égaraient le peuple, et le peuple suivait, là, il n'était pas mieux, mais... je vais vous donner un exemple de ça. Gardez votre place dans le psaume ici, et on va s'en aller dans 2 Chroniques avec M. Roboam, 2 Chroniques, chapitre 12. Juste illustrer ici le point par rapport au leadership, comment c'est important. Et vous allez voir, c'est toujours, comme d'habitude, la parole est d'actualité. 2 Chroniques, chapitre 12, verset 1. Lorsque Roboam, ça c'est le fils de Salomon, lorsque Roboam se fut affermi dans le royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Cette tournure d'événements montre une malheureuse tendance humaine qui malheureusement, lorsqu'elle n'est pas brisée, fait tellement de ravages. Heureusement, on apprend au verset 6 que les chefs d'Israël et les rois s'humilièrent et dirent « L'Éternel est juste ». Et savez-vous que je pense que c'est la bénédiction ce qui nous est arrivé en 2020-2021? On avait la force, on avait acquis, puis on était en train d'abandonner l'Éternel en se confiant en nous-mêmes, en nos propres forces, en toutes les bonnes choses chrétiennes qu'on est capable de faire par nous-mêmes sans dépendre de Dieu, sans que la vie de Christ soit ce qui s'exprime à travers nous. Dieu nous a délivrés de ça dans sa bonté. Pour qu'on apprenne à s'humilier devant lui et dire « L'Éternel est juste ». Vous savez ce que Dieu fait en ce moment? Là, il n'y a aucun reproche à y donner. Là. Parce qu'il fait ça avec des nations qui disent « On veut briser les liens ». Je veux dire, si on vit ce qu'on vit là, c'est pas parce que il y a de l'injustice en Dieu, c'est parce qu'il y a de l'injustice en l'homme. Mais il y a des conséquences à se regarder au verset 7. « Et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut adressée à Shema et Jean. Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Chic-Chac. Mais ils seront assujettis et ils sauront que c'est ce que c'est de me servir ou de servir les royaumes des autres pays. Ouais. Chic-Chac, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem et prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Il y a toujours une détérioration. Avec le péché, la tiédeur, l'apostasie, ça l'amène toujours une détérioration de l'état spirituel. C'est ça qui nous arrivait, c'est de ça que Dieu nous délivre dans sa bonté. Nos églises étaient en train de se détériorer comme celle de Laodicée. On est riche, je vais vous le lire. Parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, que Dieu nous ouvre les yeux là-dessus, c'est merveilleux, c'est la meilleure chose qui ne pourrait pas nous arriver. Malheur à celui qui se confie dans le bras de la chair en lui-même. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. N'est-ce pas plus précieux que notre confort physique ici-bas? Puis, ici, l'Éternel voulait donner une leçon. Hey, je veux vous montrer c'est quoi la différence entre mon joug, qui en passant d'apprendre le joug de Jésus, comment est-il, il est doux et léger, versus celui d'un roi païen comme Chic-Chac. Est-ce que ça se peut qu'il y ait quelque chose d'actuel là-dedans? Êtes-vous bien sous le joug, tu dois dire ça là, Legault, Trudeau, n'est-ce pas des jougs qui sont... Non mais, Il y a quelque chose, il y a un parallèle ici, c'est un roi qui venait, puis tout ça. Et on doit honneur à ces autorités-là, mais on voit quelle sorte de joug ça donne. Je crois que ce qu'on vit, c'est Dieu qui montre. Regardez quand on me rejette, quand on dit « brisons les chaînes » et tout ça, c'est ça qui arrive. N'est-ce pas moi qui est le bon berger? N'est-ce pas moi qui est le souverain berger, le bon roi? C'est ça que ça donne quand on le rejette. C'est Dieu qui nous montre que le règne ici-bas lui appartient, que c'est à lui qu'on doit faire confiance. Et mes amis, je pense pas que le problème, c'est de la bonne volonté. Les chrétiens sont pleins de bonne volonté pour leur Dieu. Le problème, c'est un problème de capacité. Le salut vient de l'Éternel. C'est pas parce qu'on n'avait pas la bonne volonté, c'est parce qu'on se confiait dans nos propres forces, puis qu'on n'en a pas de force. Ce n'est pas dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 et 6. Il n'y a de salut en aucun autre. Et aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le grand constat où on doit aboutir lorsqu'on voit le problème. Lorsque Dieu révèle le problème, il n'y a pas de salut en dehors de l'Éternel. Ça nous amène à la deuxième étape, la révélation de la solution. Regardez versets 4 à 9. Vous êtes revenus avec moi dans Psaume 2? Si vous ne l'avez pas fait, revenez avec moi. On va venir au verset 4. « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. » Il n'est pas impressionné, Dieu, par ce qui arrive en ce moment. Pas du tout. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. La révélation de la solution, c'est quoi la solution? Le règne de l'Éternel Dieu, le seul juste juge, le seul qui est vrai. Le règne juste, bienveillant, restaurateur et glorieux de notre Dieu. L'homme est incapable de faire ça. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pas parce qu'il essaye pas, mais ça marche jamais, c'est lamentable. Malgré toute la politique, la religion, la philosophie des hommes, ça ne mène qu'au chaos qu'on voit avec les versets 1 à 3. Mais, qu'est-ce qu'on apprend avec Jésus-Christ? Dans ce monde tout brisé, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Dieu est venu dans ce monde rebelle avec ces gens qui disent « on ne veut rien savoir ». Et il est venu, il a pris cher, lui, le Rédempteur, est venu accomplir la délivrance. Il est la solution. Il est venu pour amener le règne de bonté, de bienveillance, de restauration dans un monde qui se détruit où est-ce que tout ce qui règne n'est que destruction. Puis c'est dans cette déchéance de l'être humain qu'il est venu. Puis en passant, comme ils n'ont pas accueilli Jésus avec le tapis rouge, pour ça aussi que les missionnaires, l'œuvre missionnaire, puis missionnaires, c'est pas juste ceux qui sont en Ouganda puis en Thaïlande. C'est nous autres, quand on s'en va au travail, c'est quand on sort. Le champ missionnaire, c'est le monde, c'est partout. C'est les gens de notre famille, c'est les gens de notre travail, c'est nos voisins. Qui est hostile. Le monde a une disposition hostile à l'Évangile. C'est la réponse naturelle, déchue, savez-vous, universelle. Ah, il y a des cultures différentes, mais c'est juste différentes façons de rejeter l'évangile de vérité. Il y en a qui le font plus poliment que d'autres. Mais c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut accepter. Vous savez, la souffrance est implicite à l'œuvre missionnaire. Vous voulez partager Christ? Vous voulez, comme dans le livre des Actes, prier d'avoir l'hardiesse de proclamer l'évangile de Christ? Attendez-vous à souffrir. Puis c'est pas pour faire peur à personne, c'est la réalité. C'est les traces de notre Seigneur. Et c'est aussi celle qu'on va emprunter si on veut le suivre. Je vous lis ce que j'ai lu au déjeuner des hommes hier. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Oh, puis écoutez verset 24-25. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes.
Amen.
Amen. Vous savez, il y a un appel là-dedans. C'est à cela que vous êtes appelés. On est appelés à la communion des souffrances de Christ. Les héros dans le royaume de Dieu, c'est pas les super-héros de ce monde qui sont au-dessus, qui donnent un coup de poing, puis que l'autre envole à l'autre bout du monde. Mais c'est pas pour plaisanter. C'est ceux qui se placent sous la main de Dieu qui permet qu'ils souffrent. C'est comme Christ est venu comme un homme de douleur accoutumé à la souffrance. Il est allé à la croix comme un agneau qui a pas ouvert la bouche. Et nous, si on veut aller dans ses traces, il faut s'attendre à ce que ça soit ça. Mais pourquoi qu'on reprend courage que oui, il y a de la rébellion, oui, mais nous avons la solution, la seule, celui qui délivre ce monde déchu. Et lorsqu'on accepte de souffrir pour le bien puis le péché des autres, si on est insulté sans remettre l'insulte, si on est injurié sans injurier en retour, mais qu'on s'en remet à celui qui juge justement, Dieu va utiliser ça. C'est la gloire de Christ. C'est ce que Dieu a utilisé dans le christianisme du tout début, l'Église primitive, pour transformer le monde au point qu'il a christianisé. On dit, on est des sociétés judéo-chrétiennes, il y a pris du monde comme vous et moi, qui ont laissé Dieu faire ça dans leur vie, qui a accepté de souffrir pour le péché et le bien des autres, puis Dieu a opéré sa délivrance de même. Des chrétiens sans éducation, où est-ce que quand tout le monde fuyait pour une pandémie, comme on, ben pas pandémie là, en tout cas pour un virus, et qui quittait tout le monde quittait la ville, puis ils laissaient les enfants puis les vieillards en arrière parce qu'ils voulaient sauver leur peau, les chrétiens restaient puis s'en occupaient.
Amen.
C'est comme ça que Christ a conquis le monde. Pourquoi? Parce qu'il acceptait de souffrir pour le bien puis le péché. Il acceptait de porter le fardeau du péché de ces gens-là qui laissaient les vulnérables. Puis avec l'avortement, vous regarderez ce que les femmes faisaient dans les villes comme Éphèse, où est-ce qu'il y avait des temples de prostitution, est-ce qu'évidemment, bon, l'avortement existait, ils laissaient les enfants comme ça abandonnés dans une espèce de terrain vacant. Les femmes chrétiennes n'étaient pas loin, puis quand il y en avait une qui laissait un bébé, ils le prenaient puis ils l'élevaient pour eux-mêmes. Wow! Ça, c'est accepter de souffrir pour le bien et le péché des autres. Et je crois que Dieu nous appelle à ça spécialement en ce moment, de différentes façons. Vous savez que la vie chrétienne, c'est pas supposé de se vivre dans la zone de confort. Où est-ce que tout va bien, puis on n'a pas de problème, puis tout le monde nous aime. Qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus? Malheur à vous si c'est comme ça, parce que les faux prophètes ont été comme ça, tout le monde les aimait, mais comment étaient les fidèles prophètes de Dieu? Ça n'a pas été très bien, hein? Pas très bien pour eux autres, mais ils étaient fidèles à Dieu. Et ils avaient une joie. Vous savez, Jean-Baptiste a été fidèle à Dieu. Jésus l'a appelé le plus grand des prophètes. Il a fini avec la tête coupée. Jésus lui-même, notre Seigneur, a payé le prix ultime. Pour le monde, c'est comme, ah, quelle honte, il meurt sur une croix. Alors que pour nous, c'est la puissance de Dieu, c'est la gloire de la délivrance qui vient de cette croix. Pas pour rien qu'on se glorifie dans cette croix, qu'elle est si précieuse. Cette croix me sera toujours chère.
Amen.
Elle est gloire et puissance pour moi, victoire pour moi. La seule raison pour laquelle nous hésitons, nous reculons, nous regimbons face à la souffrance, qui, comme je disais, fait partie inhérente de la mission de l'Évangile, c'est parce qu'on est myope. On ne voit pas de loin. Nos yeux sont sur la souffrance, sur le prix à payer, plutôt que sur la rémunération. Moïse est tellement un bon exemple là-dessus. J'aime où est-ce que ça dit dans Hébreux 11:26 que Moïse a regardé à l'opprobre de Christ comme un trésor, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse, aussi loin qu'il était de Christ en avant lui, c'est sur lui qu'il avait les yeux. Puis il a accepté d'être maltraité, puis de laisser toutes les richesses d'Égypte, lui qui était dans le palais, là. Il y avait tout pour lui, là. Il a accepté de porter l'opprobre de Christ parce qu'il avait les yeux sur la... il avait les yeux à la bonne place. Il a accepté de souffrir parce qu'il voyait la richesse de Christ plus grande que les trésors d'Égypte. Wow! Et qu'est-ce qu'on témoigne dans la vie des prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, dans la vie de notre Seigneur bien-aimé lui-même? Que la mission de l'Évangile requiert un prix, un sacrifice, comme je le disais, vous serez mes témoins. C'était pas « Ah, oh, on va donner un petit traité ». Non, vous allez être mes martyrs. Vous allez être ceux qui vont aller jusqu'à la mort pour moi. Mais c'est comme ça que c'est accompli. Oh, je vais vous lire des versets, c'est tellement merveilleux. Regardez, oui, les témoins dans le livre des Actes. Mais regardez ce qui s'est accompli. Par exemple, avec l'apôtre Paul. « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » N'est-ce pas merveilleux que, à travers cette souffrance, il y a eu le fruit de l'apôtre Paul, puis Paul lui-même qui donne témoignage, lorsque, dans Actes 26, il dit... Le Seigneur lui a dit, « Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je t'ai apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Et là, ça répète, « je t'ai choisi du milieu des nations, de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, que tu passes des ténèbres, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » C'est le prix, ça, mes amis. Est-ce que ça vaut la peine de souffrir pour ça? C'est éternel, c'est grandiose, mes amis. C'est ça, la rémunération. C'est là-dessus qu'on doit avoir les yeux, pas sur le prix à payer qui est temporaire. On regarde sur la récompense qui est éternelle. Maintenant, ça mène à la troisième étape. Non seulement Dieu révèle le problème, il révèle la solution qui est son règne, qui est sa restauration. Mais dans le verset 10 à 12 du psaume 2, on voit la révélation de notre responsabilité. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Vous savez que le règne de Dieu exige. Le règne de Dieu, c'est pas quelque chose de neutre, de périphérique, de secondaire ou d'optionnel. Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas de négociation avec lui, là. Ce règne exige que nous nous humilions. Hein, baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite. On s'humilie devant un tel Dieu. Et ça l'exige aussi, non seulement l'humilité, mais aussi la foi. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le règne de Dieu exige une réponse d'humilité, qu'on tombe sur notre face et qu'on se confie en lui. Puis à la lumière de cette grande vérité, on comprend qu'on ne peut pas réduire l'œuvre missionnaire à juste donner de l'argent dans une assiette d'offrande le dimanche matin. J'espère que ce n'est pas comme ça qu'on voit les missions. C'est tellement au-delà de ça. Ça en fait partie, mais ça en est seulement une partie. Ça serait réductionniste et même une insulte à une œuvre si grande. Non, l'œuvre missionnaire de rédemption, c'est le don de soi à 100% pour être un instrument dans les mains de notre Rédempteur. Je vous ai cité tantôt Romain qui nous dit que c'est notre culte raisonnable de se donner complètement à Dieu en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et j'ai lu aussi l'exemple des Macédoniens qui suppliaient, « Hey, on va avoir cette joie, ce privilège de pouvoir être utilisé comme ça dans cette œuvre grandiose et glorieuse de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et même d'aller jusqu'à payer le prix ultime. Ça fait aussi partie de l'Évangile. C'est aussi en missionologie, est-ce qu'on en parle? Il y en a un qui a souffert, qui parlait même de souffrologie ou de martyrologie. C'est des mots qu'on ne connaît même pas tellement qu'on n'est pas habitué à la persécution. Ce gars-là a passé 12 ans en prison à cause de sa foi en Jésus-Christ. Lui, peut-être qu'il avait peut-être donné un petit peu plus d'attention à ce thème. Mais Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Écoutez aussi 1 Jean chapitre 3. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voit son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mm-hmm. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Mm-hmm. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Le fait de donner pour l'œuvre missionnaire, bien que ça ne peut jamais remplacer le fait de se donner, comme les Macédoniens, hein, qui se sont d'abord donnés eux-mêmes par la volonté de Dieu, c'est un acte d'adoration envers ce Dieu rédempteur, envers ce Dieu qui a donné la grande commission. Et envers son règne qui l'étend. Il dit, vous allez être mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi en Samarie, en Judée, puis jusqu'aux extrémités de la terre. On n'a pas d'Haïtien ici, mais en créole, ça dit jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout de la terre. Vous savez où? Dans leur langue, ils connaissent l'Évangile parce qu'il y en a qui ont rendu l'Évangile jusque-là.
Amen.
Puis c'est vrai partout sur la terre. Et remarquez dans ce qu'on a vu ici, dans les chapitres, dans les versets 10 à 12, sur notre dernier point qui est la responsabilité. Non seulement il y a une responsabilité individuelle, mais ça parle aux grands de ce monde, ceux qui dirigent des pays. Eux aussi vont rendre compte. T'as vu, ça a sorti dans la prière ce matin. Ils sont responsables, eux autres aussi, de s'humilier et de se confier en Dieu. Et ils doivent trembler devant ce Dieu. T'as vu que ça change notre vie? Des fois, on voit Satan puis sa gang là, comme tellement grand. On devrait les voir, ils devraient trembler puis être gros comme ça. Les plus grands de la terre, parce qu'ils sont face à un Dieu trois fois saint devant lequel ils vont rendre compte. Puis s'ils se prennent pour Dieu, ça ne va pas durer longtemps. Puis on doit prier que Dieu doit avoir pitié d'eux autres. Parce qu'ils sont vraiment dans le trouble. Ça change la perspective. On ne les voit pas si grands, on les voit comme des humains tels qu'ils sont. Eux autres, ils aimeraient à penser qu'ils sont grands puis à faire... Mais en tant que chrétien, la disposition qu'on doit avoir, c'est prier que Dieu ait pitié des autres, puis qu'ils arrivent à ce point-là, oui, qu'ils baissent le Fils de peur qu'ils ne s'irritent, puis qu'ils périssent dans leur voie. C'est la réalité. Et savez qu'en ce moment, en tant que chrétien, à cause de ces grands-là, nous sommes, et c'est l'histoire aussi de la chrétienté, à cause de ces grands-là, nous sommes appelés à souffrir pour le bien puis leur péché. Si on est ici et qu'on se rend compte au prix qu'il y ait des conséquences, c'est parce qu'on accepte de porter le fardeau de leur péché. On fait ce qui est bien. Pour nous, 1 Pierre a été écrit, si on a à souffrir, on souffre pour faire le bien. On ne fait rien de mal étant ici. On adore le Dieu vivant, en esprit, en vérité. On n'est pas rebelle, on est fidèle à Dieu. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Vous savez, il y a tout le temps de négociations sur l'adoration. Ah, oh, OK, adore, mais comme ça. Puis, non, c'est non négociable. Parce que c'est Dieu qui est le maître de l'adoration. Amen. Moïse, Nebuchadnezzar, le Sanhédrin, non négociable. Sauf que, on est appelé à souffrir. Donc, on n'ait pas peur, mais qu'on fasse ça pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs, en fidélité envers lui, comme un culte raisonnable. C'est ça la chrétienté biblique. Les gens allaient dans l'arène. Puis ils étaient publiquement humiliés. Puis ils se faisaient accuser. Vous savez que Néron avait accusé les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome. C'était les boucs émissaires. Mais ils ont accepté de le faire. Et dans ce sens-là, ils représentaient Christ, qui a accepté de porter les péchés, le fardeau du péché du monde. Et eux le faisaient aussi en retour. Écoutez ce que ça nous dit dans Colossiens 1:24. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Juste ça vaut peut-être un peu la réflexion. Je me réjouis des souffrances. Je sais pas si vous savez, mais ça, c'est typiquement chrétien, ça marche pas. C'est pas supposé être de même. Qui se réjouit des souffrances? Celui qui voit, celui qui est au-delà des souffrances, celui qui a un but à ses souffrances. Christ donne un sens à la... On ne souffre pas en vain parce qu'on est masochiste. Non, parce que notre Seigneur a souffert pour nous. Donc, on se réjouit. Puis regardez, ce n'était pas fini ici. Je me réjouis des souffrances pour vous, qu'il dit aux Colossiens. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est pas que Christ n'avait pas assez souffert, mais étant son corps, on continue cette œuvre de souffrir pour le bien puis le péché des autres. C'est à ça qu'on est appelé. Et c'est ça aussi l'œuvre missionnaire. Maintenant, comme j'ai conclu avec les autres messages avant, et bien, si quelqu'un décide de « Ah, moi, l'œuvre missionnaire, c'est bien beau, c'est bon, mais pour les autres, vous avez le droit de penser ça, vous avez le droit de croire ça, mais je pense que vous négligez, vous passez à côté de l'héritage spirituel que nous avons en Jésus-Christ. » On a vu aujourd'hui dans ce psaume, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les héritiers de la terre, les extrémités de la terre pour possession. » Le Père a donné au Fils cet héritage et on a cette joie d'en faire partie. Quand on rentre dans ce travail, on rentre dans l'œuvre glorieuse de l'œuvre rédemptrice de Christ qui va jusqu'aux extrémités de la terre. C'est glorieux, quel privilège! Les Macédoniens, ils suppliaient pour avoir part à ça. Quelque chose d'aussi grand, d'aussi merveilleux. C'est notre héritage en Jésus-Christ. Et si on pense de même que oh, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, notre monde est trop petit. Notre vision est trop étroite, myopique. On vit trop seulement juste pour ici-bas. Nos regards ne sont pas attachés à ce qui est en haut, mais ils sont pris avec ce qui est en bas. Mais j'ai beaucoup parlé des Macédoniens, puis vous pourrez lire, méditer 2 Corinthiens 8, et les Macédoniens, le Jésus-Christ, je n'ai parlé aussi au début, qui lui, de riche, a accepté de se faire pauvre. Ça nous rappelle que vivre comme des riches physiquement, mais d'être pauvre spirituellement, c'est bien la pire des affaires qui ne peuvent pas nous arriver. Puis savez-vous quoi? C'est pour ça que je loue le Seigneur de nous délivrer de ça. Ouais. Mes amis, on est dans un monde, en Amérique du Nord, la chrétienté occidentale est très laodicéenne, qui dit, je le répète, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mes amis, que Dieu nous délivre de ça, puis merci qu'il nous délivre de ça pour nous faire rendre compte qu'au contraire, on est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu sans lui. Gloire à Dieu qui nous ouvre les yeux sur les richesses incompréhensibles de Christ. Comme Moïse, au lieu de se complaire dans les trésors d'Égypte, d'avoir les yeux sur la rémunération, puis à cause de ça, d'accepter, de porter l'opprobre de Christ, puis de souffrir avec le peuple de Dieu. Pour ça que vous êtes ici ce matin, n'est-ce pas? Il y a une raison pourquoi on est ici. C'est parce qu'on adore Dieu, puis on trouve ça plus précieux que le confort de la sécurité, qui a passé à être une fausse sécurité. La seule sécurité est en Christ. On doit craindre celui qui a le pouvoir sur l'âme et non sur le corps. Nous avons réduit la question missionnaire à une question d'argent, alors que c'est bien plus que ça. Et c'est d'abord aussi une question de cœur. La réponse à cette œuvre grandiose, la rédemption en Jésus-Christ. Nous avons fait de la mission une fin en soi, alors que c'est un moyen que Dieu a donné pour révéler qui il est. Le Dieu qui, en Jésus-Christ, nous donne tout l'héritage qui est en lui, puis ça va jusqu'aux extrémités de la terre. Ma question ce matin, est-ce que tu connais ce Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que tu le connais pour avoir passé de la mort à la vie? Écoutez ce verset précieux des Écritures qui sort des lèvres de notre Seigneur Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où est-ce que tu sais, tu peux voir que tu es passé de la mort? Peut-être que ce n'est pas clair exactement le moment, mais tu sais qu'avant tu étais mort, puis maintenant tu es vivant. Avant la lumière était éteinte, maintenant tu as la lumière de la vie. Avant tu étais dans les ténèbres, tu ne comprenais pas, maintenant la parole de Dieu est vivante et précieuse. Son peuple, tout ce qui est de Dieu, c'est « wow ». Oh, t'as pas atteint, puis tu as mais juste le soupir en toi que tu te dis « Oh, j'aimerais donc ça plus le vivre ». Ça te montre que justement, c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et si tu n'as pas ça, tu as besoin de t'humilier et de te confier dans celui ici qui nous dit que tu vas périr dans ta voie. Parce que sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui, en Jésus-Christ, pour le salut de leur âme. Faut que tu reconnaisses le problème, tu ne peux pas te sauver toi-même. Faut que tu acceptes la solution, tout est accompli par Jésus-Christ, le seul sauveur, le seul qui sauve. Et maintenant, tu es responsable de répondre à ça par la foi, en t'humiliant et en recevant pour toi la provision parfaite de Dieu en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, vous savez que Jésus, juste son nom déjà révèle cette mission glorieuse. Tu vas lui donner le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. Jésus est venu en mission et nous étant ses enfants, on est la continuation de cette mission. On n'est pas appelé à être en pantoufles, assis sur notre divan, puis les pieds sur le pauvre confortable. Jésus est venu, homme de douleur, accoutumé à la souffrance, il est venu en mission, hostile, dans un monde hostile. Mais il a vaincu, il a triomphé, et on est appelé à embarquer là-dedans en tant qu'ambassadeur. Oh, je termine avec ce verset-là. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Invoquons ce Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité à te révéler à nous. Oui, on l'a vu et on te loue pour ça. Tu délivres de nos situations misérables. Tu nous as délivrés de cette confiance en nous-mêmes de dire « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Mais Seigneur, la vérité, c'est qu'on se tient tous comme malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Nous n'avons rien en nous-mêmes. Mais Seigneur, on te remercie de ce que nous avons tout pleinement en toi. Merci pour les richesses incompréhensibles, infinies, qui sont en Jésus-Christ. Oh Seigneur, qu'on ne les garde pas pour nous-mêmes. Que des fleuves d'eau vive par ton esprit débordent. Et que tout le monde autour de nous en soit béni. Et Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui voient que le salut est de l'Éternel, qu'il y a de salut en aucun autre, il n'y en a aucun par lequel nous pouvions être sauvés, sauf par Jésus-Christ. Seigneur, sauve, convainc. Convainc ces gens qui restent dans l'endurcissement, brise cet endurcissement, qu'ils soient ici avec nous ce matin, ou des gens qu'on aime qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, qui sont encore morts dans leur offense et leur péché. Oh, qu'ils viennent à celui qui est la vie, et qu'ils ne mettent pas dehors celui qui vient à lui, qui voit que la grâce est là, et que c'est le temps, aujourd'hui, le jour du salut. Seigneur, merci de ce que tu te révèles à nous, merci de ce que ta parole, elle est vivante et merveilleuse. On te loue, Seigneur. Continue ton œuvre de grâce au milieu de nous. On se confie en toi. On s'attend à toi. Au nom de Jésus. Amen.